en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur Canal Académie, dont la mission est tout à la fois de donner la parole aux académiciens actuels, mais aussi d'évoquer la mémoire et le parcours d'académiciens des siècles passés. Dans cette émission, je vous propose de nous retourner vers le XVIIIe siècle, avec mon invité, monsieur Raymond Trousson, dont les connaissances sur les auteurs de ce siècle ne sont plus à démontrer. On lui doit d'avoir publié chez Talandier d'importantes biographies, l'une sur Voltaire, qui fut académicien comme on sait, mais aussi sur Arnaud, Antoine-Vincent Arnaud, poète et auteur dramatique un peu oublié qu'il va nous faire revivre. Et il évoquera aussi deux autres auteurs incontournables du XVIIIe qui ne furent pas académiciens, mais il nous expliquera pourquoi et ne nous montrons pas sectaires, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot. Monsieur Trousson, bonjour.
Bonjour madame.
C'est un plaisir et c'est un honneur pour nous de vous recevoir au studio de Canal Académie, puisque vous venez de Belgique, de Bruxelles précisément, où vous vivez et où vous enseignez à l'Université Libre. Et vous avez été élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 1979. Vous êtes essayiste, spécialiste de la pensée de la littérature du XVIIIe, et on vous doit de nombreux ouvrages, dont le dictionnaire Voltaire, paru chez Hachette, le dictionnaire Jean-Jacques Rousseau, paru chez Honoré Champion, 1996, et chez ce même éditeur, le dictionnaire Diderot, ainsi qu'un livre consacré à Antoine-Vincent Arnaud, paru en 2004. Alors, par lequel de ces auteurs voulez-vous commencer ? Par Arnaud ? Puisque c'est le moins connu.
Si ça vous convient.
Ça nous convient tout à fait. Alors Antoine Arnaud, Antoine Vincent, 1766-1834, c'est tout ce que je sais, le reste c'est à vous.
Bien, on peut dire que Arnaud est un cas typique d'académicien qui eut de son temps une importante notoriété et qui est aujourd'hui bien sûr complètement oublié. Ce qui a survécu d'Arnaud après sa mort en 1834, ce sont non pas ces tragédies, qui paraissaient complètement obsolètes, mais ces fables, pour lesquelles on l'a longtemps comparé à Florian, renvoyant aussi bien sûr à La Fontaine, et il en a publié plusieurs éditions entre 1812 et celle posthume de 1835, et l'on trouvera des extraits d'Arnaud dans les anthologies scolaires françaises jusque vers 1930. C'est la dernière œuvre qui a trouvé un écho lointain. S'il est encore connu aujourd'hui, c'est parce qu'il a, comme d'autres auteurs d'ailleurs, sur la fin de sa vie, écrit ses mémoires, les souvenirs d'un sexagénaire, dont 4 volumes ont paru en 1834 et qu'il laisse inachevés, les mémoires allant de sa naissance en 66 jusqu'à la veille du 18 Brumaire en 1799. Ce sont ces mémoires que j'ai rééditées d'ailleurs chez Champion et qui aujourd'hui encore véritablement méritent la lecture par la peinture de l'époque, de la société. Arnaud a connu tout le monde, de Madame de Staël à la famille de Napoléon.
Elle ressemble à celle de Sainte-Beuve ?
Non.
Ou de Saint-Simon ?
Non plus. Arnaud d'abord n'a pas le palmarès et le pédigré de Saint-Simon. C'est un homme qui vient d'une bonne bourgeoisie. Mais ce sont des souvenirs très personnels, non plus à la manière de Rousseau, il ne se confesse pas, ce n'est pas dans sa forme d'esprit. Mais c'est un homme qui a connu absolument tout le monde. D'abord dans le domaine littéraire qui était le sien, bien sûr, et qui concerne la plupart du temps des auteurs dont on ne se souvient plus guère non plus, comme Le Mercier, Le Gouvet, Andrieux, etc. Mais il a connu aussi tout le monde diplomatique et le monde militaire. Il a bien connu le général Bonaparte à partir de l'armée d'Italie en 1997. Bonaparte qui, à cette époque, lui confie d'ailleurs le gouvernement des îles Ioniennes, et pour qui il passe quelques mois à Corfou. Bonaparte comptait d'ailleurs l'emmener aussi dans son expédition en Égypte. Mais là, c'est de nouveau Arnaud qui lâche le bateau, c'est le cas de lui, parce qu'il n'a pas du tout envie d'aller se promener dans les déserts, et qui rentre sans permission. Et ce qui vous explique que Bonaparte, qui eut toujours beaucoup de sympathie pour Arnaud, qui était d'ailleurs le beau-frère de son bras droit, Regnault de Saint-Jean d'Angély, a toujours conservé pour lui cette sympathie et cette méfiance. Arnaud est un esprit indépendant. Et Bonaparte a très vite senti que, si cet homme avait des qualités, ce n'était pas celle qu'il souhaitait, en particulier celle de l'obéissance. Ce qui explique qu'il fera bien, en effet, la carrière d'Arnaud, mais il la fera à la mesure des services rendus. Le 18 Brumaire, par exemple, Arnaud sert de messager, de va-et-vient entre les artisans du coup d'État. Et il en est bien sûr récompensé. Il espérait entrer au tribunat. Mais le tribunat était à l'époque une forme d'opposition au pouvoir et Napoléon, enfin le futur Napoléon, choisissait très soigneusement les membres. Il en a donc écarté Arnaud, sachant que son esprit mordant, sarcastique, critique ne s'accommodait pas de la fonction. C'est ce qui explique qu'Arnaud fera, sous le consulat et sous l'Empire, une carrière tout à fait honorable d'ailleurs dans l'administration, au ministère de l'Intérieur, puis comme conseiller général de l'université. Mais il n'accédera pas aux grandes récompenses que Bonaparte distribuait évidemment à ceux qui le servaient de plus près et de manière aussi plus docile.
Alors cet Arnaud, A-R-N-A-U-L-T, je le précise parce que ce n'est pas à la radio finalement évident de l'écrire correctement, il a eu une carrière académique, si je puis dire, assez agitée et mouvementée. Alors expliquez-nous un peu pourquoi.
Eh bien Arnaud, qui à l'époque est déjà célèbre, il l'est depuis 91 avec une pièce qui avait eu énormément de succès au début de la Révolution, qui était Marius à Minturne, où l'on avait pu trouver, à tort ou à raison, une foule d'allusions aux événements contemporains, bien entendu, et qui avait écrit ensuite d'autres pièces qui avaient eu un succès, en effet, tout à fait raisonnable, est entré à l'Institut en 1799. Et il aimait à rappeler que c'était juste avant le coup d'État pour prouver que le piston de Napoléon n'y était pour rien, et qu'il le devait à son seul mérite. En 1803, l'Académie française n'existe plus depuis 1793, bien entendu, et l'Institut avait été créé en 1995. En 1803, lorsque Napoléon réforme l'Institut, comme il réformait tout, il y crée une classe qui était au fond l'équivalent de l'ancienne Académie française. Et bien entendu, Arnaud en est. Mais en 1816, comme il s'est rallié à Napoléon pendant les 100 jours, il est exilé. Il passera 3 ans en Belgique et en Hollande, et en même temps, il est exclu de l'Institut.
Exclu de l'Institut, et exclu de l'Académie, en fait.
Évidemment. C'est ce qui explique que, 10 ans plus tard, en 1829, à la demande générale d'ailleurs, Arnaud sera réélu à l'Académie française, ce qui, je crois, doit être un cas unique.
Et c'est un homme qui a été élu 2 fois.
Voilà, et qui est d'ailleurs devenu, en 1933, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc il a trouvé ce lot de consolation après avoir été ballotté d'institut en académie.
Alors la première fois en 1803, il est élu au fauteuil numéro 16. Je le précise parce que sur Canal Académie, on propose aussi toute une série d'émissions sur l'histoire des fauteuils. Donc notre Antoine Vincent Arnaud est élu au fauteuil 16. Et son prédécesseur était Anne-Pierre de Montesquieu-Fezensac. Et son successeur, Armand Duplessis, duc de Richelieu, qui n'est pas le Richelieu de Louis XIII, bien sûr, mais son petit-neveu. Quand il est élu une seconde fois, en 1829, Arnaud est au fauteuil numéro 13. Son prédécesseur, c'est Picard. Et son successeur, ce sera Eugène Scribe, qui a été un écrivain connu. Alors,
oui, il avait bien connu les deux, d'ailleurs, puisque Picard était un de ses contemporains. C'était aussi un auteur dramatique. Quant à Eugène Scribe, il rappelle dans son discours de réception, quand il fait l'éloge d'Arnaud, qu'étant lycéen, il avait assisté à une cérémonie à l'Institut, présidé par Arnaud, et qu'il avait gardé un très grand souvenir de ce vieillard aux cheveux blancs plein de dignité, et qu'il n'aurait jamais imaginé, bien sûr la formule allait de soi, qu'il se trouverait un jour à la place de ce glorieux prédécesseur.
Et bien sûr, Arnaud fit partie aussi de la commission du dictionnaire, je suppose.
Bien entendu, il a travaillé à la lettre T.
Ah, on sait qu'il a travaillé à la lettre T. Toujours utile à savoir. Merci, monsieur. Vous n'avez pas d'autres précisions, monsieur Trousson, à nous donner sur Arnaud? Ou d'autres choses avant qu'on aborde un autre auteur ?
Mon Dieu, non. En tant qu'académicien, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Sauf que la gloire réelle, d'ailleurs, de cet homme est aujourd'hui éclipsée, mais qu'elle a connu un réel retour en 1817.
Pourquoi ?
Parce qu'une pièce de lui qu'on joue alors qu'il est en exil, mais ce sont ses amis, les bonapartistes et les libéraux, qui réussissent à faire jouer cette pièce, c'est Germanicus, qui est joué à la Comédie française et qui aurait pu aller jusqu'à déclencher une guerre civile.
Oui.
La pièce, bon, le titre l'indique, est évidemment une pièce à l'antique dans le style néoclassique. Mais bien entendu, le public y voit ou croit y voir toutes les allusions possibles et imaginables, d'autant plus que l'acteur principal, le célèbre Talma, s'est fait la tête de Napoléon. À la première représentation, en mars 1817, c'est un incroyable tumulte, une mêlée. Les officiers bonapartistes en demi-solde affrontent les officiers de la garde nationale. Plusieurs duels suivront dans les jours suivants. Et on créera même, dans les bagarres qui éclatent à cette époque, 1500 cannes qui sont de véritables gourdins et qui servaient à assommer l'adversaire et qu'on appelait des Germanicus. Balzac y fait allusion dans la Comédie humaine, d'ailleurs.
Vous
et
voyez.
Hugo y fait allusion dans un chapitre appelé « L'année 1817 dans Les Misérables ».
Quelle époque ! Alors, on a bien fait de vous poser cette question. Merci, Monsieur Trousson. Avant d'aborder notre personnage suivant, une petite pause musicale, si vous voulez bien. Nous retrouvons Raymond Trousson, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. J'ai dit tout à l'heure en commençant cette émission que vous étiez l'auteur de 3 gros dictionnaires. Alors, on va parler de celui de Voltaire, si vous voulez bien, parce que moi, j'aimerais savoir comment, pour un personnage comme Voltaire, un auteur comme Voltaire, on fait un dictionnaire. On commence par quelle lettre ? A comme Arouet, par exemple.
On aurait pu, effectivement. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça.
Comment
d'abord,
fait-on ?
On s'interroge sur la question de savoir pourquoi on fait des dictionnaires d'auteurs, quel que soit l'auteur, grand de préférence, bien entendu. Au fond, c'est surtout un phénomène d'époque. L'érudition marche tellement vite, et en particulier pour le XVIIIe siècle, à partir de 1950, il y a eu une véritable inflation érudite et universitaire. Chaque année, sur Rousseau ou sur Voltaire, il paraît une vingtaine de livres et plusieurs centaines d'articles érudits. Alors comment faire le point dans tout ça ?
Oui.
Quelle est l'importance de cette production énorme ? Il y a donc tout un public, de spécialistes d'ailleurs, mais aussi d'étudiants, d'amateurs et de curieux, qui souhaitent, sous un volume, disons, abordable, se faire une idée sérieuse, véritablement documentée, faite par des spécialistes, de l'état de la question. La façon de procéder est alors très simple. Vous avez différents types de notices dans ce genre de dictionnaire. Tout d'abord, des notices, toujours dans l'ordre alphabétique du dictionnaire, bien entendu, des notices pour chaque œuvre. Notices qui comprennent, bien entendu, une analyse de l'œuvre, de la pièce, par exemple, dans le cas de Voltaire, beaucoup de tragédies, bien sûr, avec, naturellement, le commentaire érudit, suivi d'une bibliographie qui permet, éventuellement, de poursuivre au-delà la recherche. Un deuxième type de notice est formé par les notices biographiques, c'est-à-dire non pas celles de Voltaire en l'occurrence, bien sûr, mais celles de tous les personnages qu'il a côtoyés, qui ont eu de près ou de loin un rapport un peu soutenu avec lui, qui ont pu éventuellement influencer sa pensée, ou avec qui il a eu des querelles et des différends, je ne sais pas moi, comme Fréron ou l'abbé des Fontaines, des personnages de ce genre-là, et bien sûr toute la cohorte des sectateurs de Voltaire. Et enfin, troisième type de notices, ce sont les notices thématiques. Par exemple, tragédie. Quelle est l'opinion de Voltaire ? Quelle est la philosophie esthétique de Voltaire sur la tragédie ? Et qu'est-ce qu'il apporte à la tragédie de son temps ? Qu'est-ce qu'il conserve de la tragédie antérieure ? Même chose, bien entendu, pour la comédie ou pour le poème épique. Notices thématiques qui concernent évidemment aussi, et au premier chef avec Voltaire, l'histoire des idées, politique, gouvernement, monarchie, république, tolérance, fanatisme. Toutes ces rubriques permettent de se faire une idée, somme toute fort complète, de l'univers intellectuel de Voltaire et de l'importance qu'il a pu avoir de son temps dans ce domaine particulier. Il y a aussi des notices, par exemple, qui développent des points particuliers. La célèbre affaire Calas, où Voltaire défend un protestant injustement accusé, demande évidemment une notice qui resitue ce problème dans la perspective où Voltaire agit bien sûr pour Calas, mais au-delà de cela, pour une réforme de la législation criminelle et pour un appel à la tolérance, puisque l'affaire Calas est de 62, le traité sur la tolérance est de 63. Il tire au fond une théorie de la tolérance d'un cas précis, qui est celui de ce protestant, comme ce sera ensuite le cas de Sirvent ou du Chevalier de la Barre.
Quand vous faites un dictionnaire que vous dirigez comme cela, vous vous entourez d'une équipe ? Vous
oui.
êtes nombreux, peu nombreux ?
Bien
comment
sûr.
Faites-vous ?
Non, il faut être nombreux dans le cas de certains auteurs, en tout cas, et c'est évidemment le cas de Voltaire. Son œuvre est immense.
Et oui.
Elle comprend des dizaines et des dizaines de gros volumes, sans parler de l'énorme paquet de la correspondance. Il faut donc s'adresser à des gens qui ont fait leurs preuves dans tel ou tel domaine, ou à propos de telle ou telle œuvre, etc. Et par exemple, pour le dictionnaire Voltaire, nous devions être, je crois, dans les 85 collaborateurs à faire ce travail. On était environ une centaine pour le dictionnaire de Rousseau, dans les 80 aussi pour le dictionnaire de Diderot.
Oui, c'est très important. Alors, y a-t-il un mot « académie » pour Voltaire, je suppose, puisque tout de même il a été académicien et avec une histoire académique sur laquelle il y a pas mal de choses à raconter, je crois.
Oui, surtout une chose qui devrait nous paraître assez amusante aujourd'hui avec le recul du temps. Bon, au départ, Voltaire, dans ses lettres à ses amis, dit volontiers qu'il ne tient pas du tout à être de l'académie, il ne veut être d'aucune église, d'aucune secte, d'aucune compagnie. En réalité, bien sûr, il le désire, comme il désire tout ce qu'il ne possède pas encore. Or, à une certaine époque, notre Voltaire est membre de 18 académies, françaises et étrangères, mais il n'est pas de l'académie française.
Aïe.
Alors tout de même. Entre 1730, selon Condorcet, juste après le succès de Brutus, il espère déjà être élu. Et puis diverses choses viennent à la traverse. On lui préfère une fois un évêque de Luçon, une autre fois c'est Marivaux qu'on fait passer avant lui. La troisième fois, il essaye de se placer dans la succession du cardinal de Fleury et le parti des Vaux fait évidemment obstacle. Comment on ne va pas élire tout de même ce mécréant de Voltaire à la place d'un prince de l'Église? Et c'est alors que Voltaire va faire quelque chose qu'il était seul à pouvoir faire et qui est une mystification colossale. Il sait très bien que chaque fois qu'il se présentera, et comme il a très mauvaise réputation, elle est sulfureuse, il aura contre lui le parti des Vaux. Mais que se passerait-il s'il parvenait à obtenir la caution d'une très haute autorité religieuse? Et quelle autorité religieuse pourrait être plus haute que celle du pape? Voltaire envoie donc au pape Benoît XIV, par deux voies différentes, deux de ses œuvres. La première, qui est de 45, c'est le poème sur la bataille de Fontenoy, qui célèbre la victoire française. Bon, là, rien que d'innocent, bien entendu. Et le deuxième envoi, c'est sa tragédie de Mahomet ou le fanatisme, qui, derrière une apparence islamique, visait bien entendu la religion chrétienne et plus particulièrement l'Église catholique, ça va sans dire. Le pape, fort aimablement d'ailleurs, Voltaire étant très célèbre, lui répond par une lettre fort aimable, où il le remercie, il lui envoie des médailles à son effigie, l'appelle son très cher fils, et le remercie, dit Voltaire, dans la lettre du pape, qu'il fait publier, qu'il fait circuler partout. Le pape lui dit « Et je vous remercie de votre magnifique tragédie
oui. »
qu'il a lue avec le plus grand plaisir. Or, le document authentique, original, conservé dans les archives du Vatican, montre que le pape le remercie pour votre très beau poème, c'est-à-dire le poème sous Fontenoy. Il ne dit pas un mot de Mahomet, dont il a très bien compris qu'elle était évidemment dangereuse et ambiguë.
Donc Voltaire a falsifié le document ?
Écoutez, c'est pas dur. En justice, ça s'appelle faux et usage de faux.
Ah ben, ça, c'est
cette mystification, cette supercherie, va lui donner évidemment un appui extraordinaire, d'autant plus que les jansénistes s'en prennent à ce moment-là au pape. En lui disant « Très Saint-Père, mais comment est-ce possible, vous excommuniez des membres du clergé parce qu'ils sont jansénistes, et voilà que vous bénissez ce mécréant, cet impie de Voltaire ?» Du coup, très habilement aussi bien sûr, que fait Voltaire? C'est excellent cette attaque des jansénistes, il va donc demander l'appui des jésuites, dont il était d'ailleurs un ancien élève au collège Louis le Grand. Et c'est ainsi que, le 25 avril 1746, il est élu à la succession de Jean Bouyer, qui était un érudit tout à fait remarquable d'ailleurs, et qu'il fera son discours de réception le 9 mai 46. Discours de réception qui ne sera d'ailleurs pas non plus conforme à l'usage. Dans les Lettres philosophiques en 34, Voltaire avait fait une critique amusante d'ailleurs du discours de réception. C'est quoi un discours de réception, dit-il? C'est pas difficile. Le récipiendaire explique que son prédécesseur était un grand homme, que Richelieu était un plus grand homme, que Louis XIV était un encore plus grand homme, que le secrétaire perpétuel actuel est vraiment un homme de grande dimension. À quoi le directeur répond que le récipiendaire ne tardera pas à être lui-même un très grand homme et, bien sûr, se désigne lui-même aussi comme un grand homme. Il avait donc ridiculisé ce cérémonial initiatique. Donc, il procédera autrement que les autres. Il commence dans son exorde, bien sûr, par un petit coup de chapeau à Richelieu et à Louis XIV, il finira par un éloge bref aussi de Louis XV, mais entre les deux, il a le culot d'assigner sa mission à l'Académie. Elle est là pour garantir la pureté de la langue, pour travailler au dictionnaire et l'améliorer. Il est là pour défendre la pureté et la qualité de la littérature française et ne pas la laisser se dégénérer au contact d'influences étrangères. Programme qu'il répétera en 1776 dans sa célèbre lettre à l'Académie, où il s'indigne de l'influence de Shakespeare, qui dénature la sacro-sainte tragédie française et la fait tourner vers le drame. Il a donc là, vous le voyez, une position qui, même dans cet acte extrêmement officiel, qui est de remercier, bien entendu, il provoque, il est Voltaire. Quoi qu'il fasse, il est Voltaire. Et du reste, cette entrée à l'Académie lui voudra des ennuis épouvantables et des procès, que je peux vous raconter aussi, si vous voulez, d'ailleurs.
Peut-être on va s'arrêter là pour Voltaire. Maintenant, on ne va évidemment pas refaire toute sa biographie. Mais en tout cas, effectivement, c'est un académicien sur lequel on a pas mal de choses à dire. Une petite pause musicale et après, nous allons aborder Jean-Jacques Rousseau. Avec Raymond Trousson, nous parlons d'un certain nombre de grandes figures du XVIIIe siècle qui furent académiciens pour certains et d'autres pas, mais qui sont tous des grands maîtres de la littérature ou des idées en tout cas. Jean-Jacques Rousseau, il ne fut pas académicien, alors là pourquoi Raymond Trousson ?
On a proposé à Jean-Jacques Rousseau, au lendemain du succès phénoménal et européen de son discours sur les sciences et les arts, après 1750, on lui a proposé d'entrer à l'Académie de Nancy, qui avait été fondée par Stanislas Leszczynski, l'ex-roi de Pologne et beau-père de Louis XV, qui avait d'ailleurs lui-même été l'un des contradicteurs de Rousseau, qui avait écrit contre le discours sur les sciences et les arts, et auquel Rousseau avait d'ailleurs répondu. Rousseau a refusé. On le sait parce que, dans une lettre de Madame de Graffigny, on voit qu'il y a un petit complot, comme elle dit, pour faire Rousseau de l'Académie de Nancy, et lui-même rappelle dans les confessions qu'il a refusé l'offre du comte de Tressan, qui était le délégué de Stanislas. Pourquoi a-t-il refusé ? Il ne nous le dit pas, mais on peut fort bien comprendre. L'homme qui vient de démolir les sciences et les arts, les institutions académiques qui chargent de faire, comme il dit, les intellectuels, et qui se prépare d'ailleurs à attaquer aussi la société dans le discours sur l'inégalité. Est-ce qu'il pouvait, sans casser complètement son image, s'incorporer à un corps académique ? Il a donc une bonne raison à ce moment-là pour s'en tenir à sa ligne de conduite et respecter sa propre image. Une nouvelle proposition lui est faite en 60 ou 61. Cette fois-ci par un personnage aussi très important.
Toujours pour Nancy ou pour l'Académie française ?
Ah non, cette fois-ci pour l'Académie française.
Pour l'Académie française, oui.
C'est le maréchal de Luxembourg, l'épouse du duc de Luxembourg, qui est un ami personnel du roi et qui est devenu un familier de Rousseau. Ils sont très amis. Et la duchesse, qu'il aime beaucoup, et à qui d'ailleurs il a lu toute la nouvelle Héloïse en manuscrit, venait de lui lire ça tous les matins dans sa chambre, lui propose d'user de ses relations, bien sûr, pour le faire entrer à l'Académie française. Et de nouveau, Rousseau refuse. Il refuse en faisant valoir, d'abord, qu'il a jadis refusé à Stanislas Leszczynski et qu'il serait incorrect et comme un affront à l'ex-roi de Pologne, bien sûr, d'accepter cette nomination. C'est en effet une raison comme une autre, mais on peut imaginer que Rousseau pensait à autre chose, qu'il a d'ailleurs fait valoir auprès de la duchesse. D'abord, il est étranger, il n'est pas français.
Oui, il a la nationalité genevoise.
Bon, deuxièmement, même si on pouvait obtenir ce petit passe-droit pour lui, ben deuxièmement, il y a pire, il est protestant. Comment faire entrer à l'époque un protestant
à l'Académie française ? À l'époque, il n'y en avait aucun, évidemment.
Ben non, puisque le protestantisme est officiellement banni et n'existe pas de manière officielle. Donc, il n'en était pas question.
Ça aurait été un affront au roi, alors là, pour le coup, encore.
Non, le roi, d'ailleurs, ne l'aurait pas pris pour un affront, puisque de toute façon, l'entrée d'un académicien était aussi subordonnée à l'agrément royal.
Bien sûr.
Donc, il n'était absolument pas question que Rousseau puisse devenir membre de l'Académie. Il n'y tenait d'ailleurs pas, puisque, au fond, le fait de ne pas être de l'Académie était, à son niveau de célébrité, une gloire de plus. Il a répondu un jour dans une lettre à quelqu'un qui lui proposait de frapper une médaille à son effigie, qu'il refusait, qu'il ne veut pas tout ça, tout ce décorum, et qu'il aimait mieux être de ceux dont on se demande pourquoi ils n'ont pas de médaille que de ceux dont on se demande pourquoi ils en ont une.
Donc pour l'Académie, c'était pareil. Pourquoi n'est-il pas à l'Académie au lieu d'y être ?
Oui, et effectivement, c'est au fond une façon aussi de forger un personnage. Rousseau est seul, il n'accepte aucun bienfait, il n'accepte aucune protection, aucune intervention extérieure. Il est seul de son genre, il vit très modestement de son métier de copiste de musique. Il vend ses œuvres, bien sûr, comme ça se faisait à l'époque, mais, si on peut dire, à des prix bradés. La célébrité qu'il avait lui aurait permis d'en tirer bien plus d'avantages, il ne le fait pas. Là aussi, c'est une attitude constante chez lui, se tenir à cette ligne de conduite et être surtout un grand exemple moral. C'est quelque chose, dit-il dans ses confessions, c'est quelque chose de montrer aux hommes la voie qu'ils devraient suivre.
Au fond, il cherche une adéquation entre son discours et ses actes.
Très exactement. Il faut qu'il devienne l'homme de son œuvre. Ce qui lui sera parfois très difficile d'ailleurs, mais c'est ce qu'il revendiquera d'ailleurs dans l'une de ses toutes dernières œuvres, les dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques, où il entend justement montrer que malgré les calomnies dont il est l'objet, il n'y a pas un homme qui serait un coquin et un scélérat et un auteur qui serait un grand moraliste. L'homme et l'auteur ne font qu'un.
Alors grâce à vous, nous savons pourquoi Jean-Jacques Rousseau n'était pas membre de l'Académie française. Prochain personnage, Denis Diderot, notre quatrième personnage dans un instant. Denis Diderot, là nous sommes au plein milieu du 18e, plein milieu du siècle des Lumières, lui non plus n'est pas à l'Académie ni française, ni des sciences, parce qu'il aurait pu être aussi à l'Académie des sciences.
Mais il est de l'Académie de Berlin.
Alors pourquoi ? Comment s'est passé son cheminement ?
Diderot ne pouvait pas imaginer entrer à l'Académie française. Il fallait être Voltaire pour y penser. Les choses se présentent comme ça. En 1760, un opposant des philosophes, qui était dramaturge et critique, Charles Palissot, écrit une pièce qu'il appelle « Les philosophes », où les philosophes sont très malmenés, et plus particulièrement Diderot. Diderot, qui est d'ailleurs à ce moment-là compromis dans un scandale, c'est que un de ses amis, l'abbé Morlaix, écrit un texte pamphlétaire intitulé « La vision de Charles Palissot », qui se venge évidemment de Palissot, mais qui met aussi en question la protectrice de Palissot, qui était la princesse de Robeck, la fille du maréchal de Luxembourg, le protecteur de Rousseau, et en même temps la maîtresse du ministre Choiseul. Et on soupçonne Diderot d'en être l'auteur. Ce n'était pas le cas, c'était l'abbé Morlaix. Enfin, ça fait un scandale qui éclabousse naturellement Diderot. Et à quel titre Diderot serait-il entré à l'Académie ? Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'il a derrière lui à cette époque ? Il ne faut pas oublier que l'essentiel de l'œuvre de Diderot, ce pourquoi nous l'admirons aujourd'hui, n'est pas publié de son vivant. Mais tout à la fin du XVIIIe siècle, en 1796, et tout au long du XIXe siècle. Donc le Diderot que nous connaissons et que nous admirons, Jacques le Fataliste, la religieuse, le neveu de Rameau, les salons, le supplément, voyage de Bougainville, tout ça est parfaitement inconnu des lecteurs contemporains. Alors ce qu'il a derrière lui, ce sont les pensées philosophiques en 1746, ce sont les bijoux indiscrets en 48 qui sont en roman libertin et jugé pornographique par certains, c'est la lettre sur les aveugles qui est un texte matérialiste, ce qui lui vaut d'ailleurs en 49 trois mois d'emprisonnement à Vincennes. Bien sûr, il est avec D'Alembert le co-directeur de l'encyclopédie, mais disons qu'à cette époque-là, Diderot n'a pas du tout la stature
le profil,
de Voltaire ou de Rousseau.
Oui,
c'est un second couteau, si vous voulez. Et c'est encore vrai d'ailleurs au moment de sa mort en 84. Mais au moment de cette affaire Palissot, qui attaque les philosophes, Voltaire veut une revanche. Et il veut essayer de placer encore un de ses amis à l'Académie française, et il écrit à son ami D'Alembert, qui en est évidemment, « Il faut que Diderot entre à l'Académie ». D'Alembert a beau lui représenter que c'est pas imaginable. Diderot a fait de la prison, ses œuvres ont été condamnées, tout le monde sait qu'il est athée et matérialiste. C'est impensable. Voltaire s'obstine dans plusieurs lettres. Quand il avait une idée dans la tête, il était difficile de l'en faire démordre. Et finalement, il renoncera quand D'Alembert lui expliquera qu'il a pris quelques contacts, mais qu'il a très vite constaté que Diderot aurait au moins 10 ou 15 voix contre lui, ce qui l'exclurait évidemment définitivement. Mais le comble de l'histoire, et là encore, c'est du Voltaire, bien entendu. Voltaire a parlé de son projet à tout le monde, sauf à Diderot. Et quand Diderot l'apprend, il est furieux. Il dit, mais enfin, de quoi se mêle-t-il ? Pourquoi s'est-il fait mon avocat ? Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Est-ce qu'il a imaginé un moment que ça me convenait, moi, d'être académicien ? Donc là encore, c'est une intervention assez étonnante de la paire du mêle-tout Voltaire.
Voilà, qui aimait bien mettre un petit peu la zizanie partout, finalement.
Bien sûr.
Surtout quand ça le servait. Eh bien, écoutez, voilà, trois ou quatre dictionnaires, Voltaire, Rousseau, Diderot. On vous doit aussi d'autres dictionnaires sur d'autres personnages ?
Sur d'autres personnages, non, mais j'ai aussi dirigé, mais dans une autre perspective, un dictionnaire international de l'utopie. Donc sur le plan mondial, depuis les textes de l'Antiquité jusqu'au plus récent.
Il y a beaucoup d'auteurs ?
Il y en a beaucoup, mais ce dictionnaire a lui aussi paru chez Champion d'ailleurs, mais en anglais.
J'espère qu'un jour nous pourrons le lire en français, espérons. Merci en tout cas, Monsieur Trousson, d'être venu évoquer avec nous ces figures et leur parcours académique ou non académique, mais enfin toujours lié à l'Académie de toute façon. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. J'espère que vous n'avez pas eu autant de vicissitudes et d'aventures.
Je n'ai pas dû faire appel au pape.
Ni à faire un faux. Merci infiniment. Et puis on peut donc se procurer vos ouvrages chez les éditions Honoré Champion. Merci beaucoup.
Merci à vous.